The bonana yawe don dandi di manjame. Dandi di manjame, maru panda. Maru tome, maru panda, maru bari lapa.
Ils sont arrivés, l'histoire l'a voulu. Blancs et javanais, tonkinois et plus. Ils ont côtoyé nombre de tribus. Ils ont travaillé, ils ont survécu.
Nos anciens s'entendent déjà.
Le professeur Hubert Bonin et la Société française d'histoire des Outre-mer. Si en Nouvelle-Calédonie, le bulletin de la Société d'études historiques, fondée par Bernard Brou depuis 1969 et qui paraît chaque trimestre, est connu, le public calédonien ignore qu'il existe en France une revue qui, elle, paraît depuis 1931 et qui est consacrée à l'histoire de la France d'outre-mer. Or, la revue française d'outre-mer occupe une place de choix, si ce n'est la première dans le domaine de l'histoire coloniale. Et c'est en tout cas la plus ancienne, comme nous allons maintenant pouvoir l'examiner en compagnie de monsieur le professeur émérite Hubert Bonin, secrétaire et trésorier de la Société française d'histoire des Outre-mer. Monsieur le professeur, bonjour.
Bonjour madame, chère collègue.
Et merci d'avoir accepté de venir depuis Bordeaux où vous résidez pour participer à cette émission enregistrée dans les studios rue d'Antan à Malakoff, près de Paris. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier le technicien qui a accepté de m'héberger provisoirement avant que je ne rejoigne bientôt le CAIF. Alors, monsieur le professeur, avant que nous ne débutions cette émission, je pense que nos auditeurs apprécieront de mieux vous connaître. Pouvez-vous nous rappeler quels ont été les principaux temps forts de votre carrière universitaire ?
C'est une carrière classique. Après l'école normale supérieure, j'ai fait comme vous, agrégé d'histoire. Mais j'ai enseigné 10 ans au collège.
Moi aussi.
Tout en avançant ma thèse et ma vie personnelle. Et ensuite, je suis devenu maître de conférence tout à fait par hasard à l'université de Bordeaux, actuellement l'université Michel de Montaigne. Et tout à fait par hasard aussi, je suis devenu en 1995 professeur d'histoire à Sciences Po Bordeaux, où j'ai été également responsable des relations avec les entreprises et où j'ai participé, activé la création de la première chaire d'entreprise du campus de Bordeaux. Et depuis lors, eh bien, depuis 2000, j'ai en charge la gestion financière de la SFOM, la Société française d'histoire des Outre-mer. J'expliquerai bientôt cette appellation. Et depuis quelques années, je m'occupe évidemment du secrétariat général, mais ceci jusqu'en décembre 2017, parce qu'il est temps de laisser la place à des plus jeunes.
Alors, votre domaine principal de recherche semble s'être porté sur l'histoire économique de l'ancien empire colonial français. Pouvez-vous nous expliquer les origines de cette orientation ?
Eh bien, en fait, ma principale activité, c'est l'histoire bancaire et l'histoire des entreprises. Mais en 1986, la société, la Compagnie française de l'Afrique occidentale, CFAO, m'a contacté pour préparer la commémoration de son centenaire. C'était une compagnie active dans l'Afrique subsaharienne. Et auparavant, mais de loin, là, c'était pas notre outre-mer, c'était l'outre-mer britannique, mais en partie français, j'avais travaillé la compagnie financière de Suez pour reconstituer l'histoire de la compagnie universelle du canal maritime de Suez. Donc c'est par le biais de l'histoire institutionnelle que je suis venu à l'histoire des outre-mer. Et ensuite, j'ai établi des ponts entre l'histoire bancaire et l'histoire coloniale et post-coloniale, dans la mesure où j'ai fait l'histoire de plusieurs banques qui avaient des engagements forts dans les Outre-mer, notamment la compagnie algérienne et la compagnie, le CFAT, le Crédit foncier d'Algérie et de Tunisie.
Est-ce que vous avez travaillé sur l'histoire de la Banque de l'Indochine, qui a été très importante en Nouvelle-Calédonie ?
Alors, je ne travaille pas sur l'histoire de la Banque de l'Indochine dans nos Outre-mer, parce que le sujet a été traité par Marc Melot et un collègue japonais. Mais je m'occupe de l'histoire de la Banque de l'Indochine dans les concessions chinoises, françaises en Chine. Donc j'ai lu beaucoup d'archives en français, en anglais, et je prépare un livre d'ici 2 ans sur cette histoire de, non pas nos colonies, mais nos excroissances impérialistes dans la Chine d'antan.
Alors, quelles ont été dans ce domaine donc, de l'histoire bancaire, vos principales publications et éventuellement vos principales découvertes et conclusions ?
Mais disons d'abord que depuis Paris, depuis la place de Paris, l'Empire gérait les finances de son empire, et non pas l'argent public, ce n'est pas ma spécialité. Des collègues comme Olivier Feiertag sont en train de travailler sur les banques centrales, coloniales et post-coloniales. Et moi-même, je m'occupe du rayonnement de la place de Paris dans l'Empire, c'est-à-dire qu'il fallait financer le négoce, ce qu'on appelle... du crédit au négoce, trade finance. Il fallait financer les importations dans les ports français. Donc, il y a beaucoup de crédits documentaires, comme on dit, de découvertes. Il fallait financer les stocks d'arachides, etc. Et par conséquent, on avait, tout comme il y avait de la banque en Lorraine ou à Lyon, il y avait beaucoup d'activités bancaires dans nos outre-mer. Il fallait faire vivre le commerce. Certes, c'était une économie commerciale imposée, pourrait-on dire, mais c'était une économie vivante, puissante, active et qui a fait vivre plusieurs places. Paris, Le Havre, Bordeaux, Nantes, Marseille, bien entendu. Et l'économie bancaire a joué un rôle. Donc, soit j'ai fait de l'histoire de banque active outre-mer, soit j'ai fait l'histoire de banque métropolitaine, mais dont un pan important de l'activité était consacré aux Outre-mer, comme le fameux Comptoir national d'escompte de Paris, ou la Société bordelaise de crédit industriel commercial, ou la Banque de l'Union parisienne. Par conséquent, tout est dans tout. C'était un emboîtement de flux de marchandises, de flux d'hommes et de flux d'argent. Donc moi, mon métier, c'est l'argent, pas en gagner beaucoup, mais honorablement. Et donc, c'est un métier d'analyse des flux d'argent, des méthodes, des outils, de l'innovation qui a pu jouer et du rôle des banquiers dans le système économique impérial, puisque ces banquiers étaient relativement influents, comme l'un des patrons du Comptoir national d'escompte de Paris, qui était Mercet, qui était l'un des co-dirigeants de l'Union coloniale.
Et vous savez qu'il existe tout un débat sur l'enrichissement finalement qu'a pu représenter l'Empire colonial. Alors l'historien Jacques Marseille avait conclu que l'Empire colonial finalement n'a peut-être pas été une si bonne opération économique que cela pour la France. Et vous, à travers les banques, quelle est votre appréciation ?
Honnêtement, les banques auraient pu s'en passer, sauf la Banque de l'Indochine, qui était évidemment ancrée dans ces territoires. Mais elle-même était beaucoup active en Chine et dans l'Océanie, et donc elle aurait pu, elle aussi, à la limite, être délestée de l'Empire. D'ailleurs, elle a survécu à la perte du Vietnam et autres, Cambodge et Laos, bien sûr. Oui, Jacques Marseille a raison, c'est un bon ami, mais il précise lui-même dans sa thèse qu'un certain nombre d'entreprises vivaient à plus de moitié, voire des trois quarts, des activités avec l'Empire, dans un certain nombre de branches qui étaient destinées à assurer je dirais, la vie des colons ou du système étatique, également de l'appareil économique d'État, ou qui était chargé d'acheter les denrées, les matières premières, les produits agricoles, des produits miniers, Jean Caoutchouc, et des produits forestiers, pardon, Jean Caoutchouc. Là, c'était tout de même des entreprises spécialisées ou qui avaient des branches d'activité spécialisées. J'ai évoqué d'ailleurs CFAO. CFAO, jusqu'aux années 50, vivait au 9/10 de son outre-mer. Et par conséquent, globalement, la France aurait pu se passer de l'Empire.
Parce que Jacques Marseille dit, excusez-moi de vous interrompre, oui, mais si je me rappelle bien ses conclusions, il dit l'Empire a été une bonne affaire pour un certain nombre de particuliers et pas une si bonne affaire que ça pour l'État en général.
Bien, ensuite, il a fallu, c'est un vieux débat, que Daniel Lefebvre, il y a quelques années, et Samir Saul également, tous les deux à propos du Maghreb, ont repris. Il a fallu équiper ces pays, c'est-à-dire, même s'il y a eu de l'exploitation un peu excessive de la main-d'œuvre, genre travail forcé ou engagisme, il a fallu construire, équiper comme dirait l'autre, mon jardin juriste du Sud-Est, il a fallu équiper le Zambèze plutôt que la Corrèze, ou le Zambèze en même temps que la Corrèze. Donc construire des voies ferrées, construire des ports. Mais cela a bénéficié aux entreprises de travaux publics, bien entendu. Et dès lors, on aurait pu se passer de l'Empire, mais l'Empire nous a été fort utile, tout comme au Royaume-Uni. Évidemment, les surprofits ont été cantonnés dans un certain nombre de branches et d'entreprises, mais globalement,
en quoi l'Empire nous a-t-il été si utile ?
L'Empire a été utile pour nous procurer des denrées à relatif bon marché, en disant la devise française, plutôt d'acheter en Inde, en payant ou aux Pays-Bas, par le biais des Indes néerlandaises. On en achetait de toute façon, on avait aussi des arachides de l'Inde. Mais ça nous a permis de faire des économies de devises, peut-être. Enfin, certainement. Et puis, ça nous a permis de développer des technologies. C'est-à-dire que les entreprises de travaux publics, ou de bâtiments pour la construction des grandes villes, ont pu déployer leurs activités, comme Dominique Barjot l'a montré, dans le BTP, dans la construction de voies ferrées, dans la construction de ports, le règne du béton pour construire Casablanca, le port de Casablanca, puis aussi la ville européenne.
Et Abidjan.
Et Abidjan, bien entendu. Il ne faut pas oublier que c'est François Mitterrand, ministre de la France d'Outre-mer, qui en 1951, avec un beau chapeau Stetson, inaugure le port d'Abidjan. Donc c'est encore en 51, tout près de l'indépendance. Donc, bon... Ensuite, on a parlé d'une surexploitation, mais au fond, ces colonies ont hérité de cet équipement. Après, fallait-il ou pas les insérer dans l'économie moderne ? Est-ce que le rythme imposé par la puissance coloniale n'a pas été excessif par rapport au rythme qu'auraient vécu ces pays indépendants, tels royaumes, genre Éthiopie, je dirais, sauf pendant la période mussolinienne ? Bon, après, ce sont des discussions sans fin, bien évidemment. Est-ce qu'on n'a pas accéléré le rythme ?
Et puis, on ne
reste pas l'histoire avec ici. Voilà. Et de toute façon, pour faire de l'Uchronie, comme on dit, les Chinois sont en train de prendre la place. Ce sont des pays indépendants qui se font équiper. La fameuse voie ferrée entre Djibouti et l'Érythrée et l'Éthiopie, que nous avions construit, nous, Français, ce sont les Chinois qui la rénovent entièrement. Donc, de toute façon, on est dans un rapport inégalitaire, qualifié de Nord-Sud. Mais maintenant, on voit des pays Sud-Sud, je dirais Chine, Afrique. On n'a plus l'Afrique française ou la France-Afrique. On a la Sine-Afrique, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, on est dans des rapports inégaux de production dans un certain nombre de branches. Donc, on a bien été contraint de ces territoires, quel qu'ait été leur statut, auraient été contraints de faire appel à des puissances investisseuses. Alors, on avait une chasse gardée. Mais à partir des années 70, le Canada est venu, d'autres pays, une concurrence, bien entendu, entre investisseurs, les États-Unis. Et par conséquent, ce sont des discussions fort intéressantes, mais qui sont un peu, je dirais, anachroniques. C'est ce qu'on appelle l'histoire contrefactuelle. Pouvait-on avoir un autre passé, une autre évolution ? C'est sans fin. C'est comme la Nouvelle-Calédonie, votre territoire. Les Canadiens avaient-ils besoin de produire du nickel ? Bon, la question est posée. Ils auraient pu vivre sans nickel, même en étant abonnés au Pied Nickelé, la revue qui était publiée à partir du début du siècle, enfin du siècle précédent. Donc, on est bien là dans une logique de domination, oui, des rapports de domination. Bon, ce n'est pas nouveau. L'émission n'innove pas dans ce sens, chère madame.
Alors, donc vous êtes maintenant à la retraite, mais je suppose que vous poursuivez vos travaux historiques. Alors, quels sont justement vos prochains projets de publication ?
Je suis à la retraite de l'enseignement, mais j'ai encore plus de temps pour faire de la recherche. J'ai toujours été enseignant gestionnaire de certaines unités d'enseignement communautaire, je dirais. Et je suis chercheur. Donc, ma priorité, c'est l'histoire bancaire et l'histoire économique, sur la Première Guerre mondiale en particulier. On reviendra sur ce thème tout à l'heure. Mais c'est aussi l'histoire des Outre-mer. Je viens de produire deux textes sur Unilever, la grande société anglo-hollandaise, qui avait des filiales françaises, et qui travaillait en Afrique subsaharienne française, également en Afrique subsaharienne britannique. Et j'ai reconstitué l'histoire de cette société dans nos Outre-mer pour compléter, je dirais, les recherches des collègues anglo-saxons, entre guillemets, qui ont fait l'histoire d'Unilever en général et surtout dans les aires anglophones. Et puis, je continue, par le biais de l'Outre-mer, à étudier un certain nombre de thèmes, toujours liés à l'histoire bancaire. J'ai parlé tout à l'heure des concessions françaises. Et je crois que, surtout, l'avantage d'un certain âge ou de l'âge avancé, c'est de pouvoir faciliter l'histoire comparative. On parle d'histoire connectée, mais on n'a pas attendu les jeunes collègues pour le faire.
Connectée ou globalisée.
Énormément de respect pour eux, bien sûr. Mais j'ai sorti chez Oudlège en anglais, il faut l'accepter. Si on veut faire l'histoire comparative, eh bien, on a demandé de le faire en chinois. C'est pour la prochaine génération. Eh bien, des livres sur Imperial Asian Banking History, Colonial and Imperial Banking History, pour comparer comment se passait l'histoire bancaire dans les différents empires. Donc, on est là dans l'histoire comparative et je trouve que c'est très stimulant. Parce que dans chaque pays, on a des spécialistes d'histoire économique impériale, bien sûr.
Mais donc, au sein de cette actualité de publication, vous êtes aussi, depuis 2000, trésorier de la Société française d'histoire des Outre-mer. Et vous en êtes devenu le secrétaire général depuis 2015. Alors, pouvez-vous expliquer à nos auditeurs ce qu'est la Société française d'histoire des Outre-mer ?
C'est une association académique, gérée par des bénévoles, qui ne dépend d'aucune maison d'édition et qui ne dépend d'aucune université ou laboratoire de recherche. Donc, c'est une société indépendante. Qui a été créée, je me permets de vous corriger tout à l'heure, en 1912 et sa revue en 1913. Et par conséquent, cette Société française des Outre-mer s'appelle des Outre-mer depuis quelques années parce qu'elle s'occupe des Outre-mer de tous les pays ayant un Outre-mer. Et on fait de l'histoire comparative, là encore, globalisée, je ne sais pas, mais en tout cas comparative. Alors, c'était une société colonialiste, bien sûr.
Justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'origine de cette société ?
Oui, bien sûr. C'était une société colonialiste qui, lorsqu'elle a été créée en 1912, s'est appelée Société d'histoire des colonies françaises. Donc, c'est bien l'esprit impérial, c'est bien la plus grande France, c'est bien la mise en valeur, je dirais, culturelle de notre empire. Ensuite, elle est devenue la société...
Mais pourquoi a-t-elle été fondée ?
Oui, je vais y venir. D'histoire des colonies françaises, la Société d'histoire de la France d'Outre-mer et maintenant la Société française d'histoire des Outre-mer pour faciliter la comparaison. Eh bien, à l'époque, il y avait des élites que l'on trouvait à l'Union coloniale, des patrons. Il y avait dans les comités
Peut-être
Asie,
faut-il
Afrique.
Expliquer à nos auditeurs ce qu'était l'Union coloniale.
Alors, l'Union coloniale était une grande association réunissant les élites travaillant en Asie, en Afrique, aux Antilles. Qui réunissait des patrons, qui réunissait
des hommes politiques aussi.
Des hommes politiques.
Comme Eugène Étienne, par exemple,
les deux,
le député Doran.
À cheval sur les deux. Qui réunissait également des experts. Et ces élites s'appuyaient également sur le monde académique, c'est-à-dire les universités, c'est-à-dire l'école de formation des cadres coloniaux. De l'administration coloniaux, c'est-à-dire également des chercheurs, petit à petit, en ethnologie.
C'est-à-dire que vous nous expliquez par là qu'il y avait une sorte, disons, de travail, de collaboration.
Ces élites patronales et experts étaient très cultivées. Elles ne se préoccupaient pas seulement, comme aujourd'hui, de chiffres d'affaires, de performance et surtout de communication institutionnelle, c'est des gens qui savaient perdre leur temps, entre guillemets, à réfléchir sur la civilisation, celle que l'on apportait, mais également celles au pluriel que l'on rencontrait. Et bien sûr, dans des rapports de domination,
vous allez surprendre en disant cela, parce qu'on a souvent une vision...
Ces élites discutaient...
C'est pas tout à fait la vision qu'on a des élites coloniales.
Entre elles, elles voulaient connaître ce qui se passait, pour pouvoir le changer éventuellement, imposer d'autres cultures, mais en fait, pour vivre la cohabitation, savoir quels vêtements on allait, le tisseur vosgien allait vendre au Sénégalais, puisqu'une phrase...
Au fond, l'objectif, c'était de faire des études de marché,
voilà,
finalement.
Des études de culture et de marché. Donc, comment vivent ces populations et quelles sont leurs cultures et en quoi ça développe aussi la culture française. Et par conséquent, ces élites se réunissaient. Et la revue, créée en 1913, a permis à ces élites de cohabiter encore plus. C'est-à-dire qu'on avait quelqu'un comme Martineau qui a beaucoup fait vivre la revue dans l'entre-deux-guerres, qui était en même temps l'un des pontes de la réflexion sur l'histoire, les civilisations de l'Inde française, par exemple. Il a publié des dizaines de livres que nous publions toujours et dont certains sont en vente dans nos collections. Ce sont des pièces de choix. Et ces élites discutaient entre elles. Ça, c'est important. L'un de mes lointains prédécesseurs, mais pas tellement, dans les années 50-60, était comme trésorier, était le directeur général de la SCOA, la Société commerciale de l'Ouest africain, la concurrente de CFAO. Et c'était normal pour lui de faire de la culture. D'ailleurs, la SFOM a siégé au siège de la SCOA sur la rive gauche de la Seine pendant un certain nombre d'années. Et par conséquent, cette osmose ne correspondait pas du tout à ce qu'est notre clivage aujourd'hui. D'un côté, on a l'académie, la science, et de l'autre, les hommes d'affaires.
Disons, on a les milieux universitaires
oui,
et, les...
voilà. Et, donc, et de l'autre côté, aujourd'hui, les hommes nous n'avons pas de patron, d'homme d'affaires, hélas, pour nous apporter de l'argent, dans cette revue, dans notre association.
Mais n'est-ce pas devenue... parce que, comment dire, peut-être que, disons, les Outre-mer ne représentent pas un enjeu économique
Alors,
essentiel.
Évidemment, les indépendances ont éloigné de nous un certain nombre de territoires, mais chacun sait bien que la France-Afrique est forte, que Bolloré, Vincent Bolloré a de forts intérêts dans l'Afrique subsaharienne notamment, et de façon tout à fait honorable, si l'on peut le dire, sans choquer des collègues d'extrême-gauche, et par conséquent, anticapitaliste tout au moins, et par conséquent, simplement, c'est cette coupure. Par ailleurs, ces hommes d'affaires acceptaient des critiques. Parce que aujourd'hui, non, le monde patronal n'admet pas de partager, de subventionner au fond des hommes de science qui seraient critiques vis-à-vis. Bolloré n'envisage pas de financer une recherche sur les mauvais effets de l'action de Bolloré en Afrique, puisqu'il y a des débats. Hein, et par conséquent, ce sont toujours les rapports de domination capitaliste banal d'ailleurs. Et par conséquent, la revue est encore plus critique, beaucoup plus critique d'ailleurs, que dans l'entre-deux-guerres ou dans les années 50. Et aujourd'hui, eh bien, on est tous en train de, comme tout le monde de l'université, moi je suis une vieille génération, mais les deux nouvelles générations après nous, eh bien, sont en train de critiquer, bien sûr, de remettre en question toutes les solutions acquises, tous les points de vue acquis. Et c'est le rôle de la SFOM et de cette revue comparer.
Parce que vous parlez de la revue, et justement parce que, au fond, l'émanation ou l'élément qui faisait connaître cette société d'histoire des Outre-mer, c'est donc cette revue.
Alors, bien entendu, mais aussi des livres.
Hein. Voilà. Alors, justement, parlez-nous un petit peu de cette publication, enfin, de ces publications.
Oui, ben là, on ne publie plus beaucoup de livres, quelques-uns de temps en temps, mais dans l'entre-deux-guerres et jusqu'aux années 60, grâce à l'osmose entre institutions académiques et la revue, les grands pontes, Martineau et d'autres, publiaient des livres dans notre série. Mais d'aujourd'hui, on en publie peu parce qu'il y a des maisons d'édition spécialisées comme les Indes Savantes. Par conséquent, ou Cartala. Et la revue s'est centrée sur des articles, mais sur des thèmes. Chacun des deux numéros annuels est articulé autour d'un gros thème. Coopération et coopérants, Première Guerre mondiale, l'enseignement récemment, le Pacifique, le monde pacifique, religion. Donc on a un gros thème et puis des variables qui permettent parfois à des chercheurs d'arriver à publier. Et surtout, et ça c'est nouveau, je le constate depuis une dizaine d'années, permettre à des chercheurs des territoires décolonisés à accéder à nos publications ex-métropolitaines.
Parce que nous avons formé... Qui écrit dans cette revue ?
Nous avons formé des doctorants devenus docteurs. Moi, j'en ai quelques-uns à moi-même, mais les collègues beaucoup plus, Catherine Krokrividrovitch, bien entendu, Marc Michel, nous avons eu la chance de voir progresser dans la hiérarchie universitaire. Moi, j'ai Choum Choua, qui est professeur maintenant au Cameroun, Tanji Dora au Sénégal. Donc, ces gens-là, maintenant, ils publient des articles. Ils viennent les publier dans notre revue, entre autres, bien évidemment. Mais cette revue, elle permet également de comparer avec d'autres territoires de recherche. Nous travaillons avec les Commonwealth Studies en Angleterre. Robert Aldrich est un Australien et membre de notre bureau. Donc, on essaye de faire se rencontrer et diverger des analyses sur l'histoire respective de nos empires. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que chez les anglo-saxons, il y a une forte culture d'histoire de la France. Donc, ces gens-là, ces collègues, en anglais, mais ils savent lire le français, sont parfois critiques sur notre histoire, la façon dont la France est colonisée, mais aussi sur nos méthodes, dont ils nous remettent en cause. C'est stimulant de pouvoir comparer nos approches et on peut progresser ensemble. Et c'est pourquoi il y a toujours des collègues, souvent des collègues anglo-saxons, qui viennent participer à nos activités, notamment à certains colloques, car depuis Quelques années, nous organisons un colloque annuel ou une rencontre, soit à Paris, soit au rendez-vous de l'histoire de Blois. Et on a fait un colloque sur le corps dans l'histoire coloniale. Il y avait une Tunisienne en particulier qui a parlé de la championne tunisienne d'athlétisme. Je ne sais pas si c'est marathon ou 1500 mètres, ça m'échappe un peu. On a étudié la Première Guerre mondiale, notamment. Là, on va étudier l'après-Première Guerre mondiale. On a étudié partir dans les Outre-mer, comment, pourquoi les gens partaient, qui partaient.
Oui, c'était l'objet notamment de votre de l'intervention de la société l'année dernière
oui,
à Blois.
Oui, hein. Voilà.
La Donc, thématique est très
on a
intéressante.
Un peu plus de visibilité. On a un dynamisme renouvelé, je dirais. Il était déjà dynamique, avec Bernard Rose en particulier.
Mais est-ce que vous pouvez nous citer quelques, disons, quelques plumes ou quelques historiens renommés participé donc, à la revue
Bien entendu, je crois que quelqu'un comme Catherine Kokrivitrovitch est notre déesse, c'est notre Athénaï.
Mais donc, historienne de l'Afrique.
Hein. Oui, bien entendu. Elle vient de parrainer intellectuellement l'exposition Les routes d'Afrique au musée d'Orsay, qui est encore visitable, hein, qui est une exposition intéressante, même s'il n'y a pas rien sur les comptoirs des sociétés de négoces, je lui ai dit d'ailleurs. Et Catherine Trévidouche a publié, mais dès les années 60-70, des actes de colloques, des articles. Bien entendu, elle est incontournable, comme on dit simplement. Marc Michel a été un grand auteur aussi, sur des registres différents. Voilà, deux grandes personnes. Pierre Brocheux sur l'Indochine.
L'Indochine.
Voilà, et puis on a des chercheurs sur les Antilles, les Caraïbes, et actuellement René Dumont, par exemple. Et puis, pour parler de votre caillou, ben ce caillou n'était pas stérile. Il a produit des gens comme Angleviel. À l'échelle du Pacifique, également, on a...
Jean-Marc Regnault.
J'allais parler de Jean-Marc Regnault, c'est déjà ma génération, donc vieille génération.
Mais on a des jeunes. Je ne sais pas si tu serais content du commentaire.
Nous correspondons de temps en temps. Mais on a maintenant Claire Lowe, Xavier Huetz de Lamps, qui ont la quarantaine et qui ont pris la relève. Et puis on a, en parlant de votre caillou et du sous-sol de votre caillou, j'ai évoqué le nickel tout à l'heure, quelqu'un qui s'appelle Ben Sivengo.
Ah oui, Yann Ben Sivengo, oui, qui a publié une superbe thèse sur l'histoire du nickel.
Qui habite Bordeaux, d'ailleurs, et qui a fait un bouquin qui est novateur.
Oui, qui est
remarquable. Ce n'est pas un bouquin zélateur, ce n'est pas l'apologie du capitalisme colonial, c'est un bouquin nuancé, équilibré, et qui fait date.
Et très solide sur l'histoire de la société
mais il a un
nickel.
Défaut, il s'arrête en 1914. Il faut faire la suite.
Il reste de son existence pour
cela. Je recommande ce livre au caillou, c'est un peu l'histoire du développement de Rothschild en tant qu'investisseur, la banque Rothschild, dans le domaine du nickel, entre autres produits miniers. Mais il manque des études. Hein. La suite, moi, à Bordeaux, par exemple, j'ai une grande famille bordelaise, les Balandes, B-A-2-L-A-N-D-E, qui est encore aujourd'hui fort active en Nouvelle-Calédonie. Eh ben, on n'a pas d'histoire de ces Balandes. Donc, je lance aussi un appel.
Ah, Monsieur Angleviel a récemment produit en Nouvelle-Calédonie une histoire, justement, de la saga des Balandes, mais en Nouvelle-Calédonie.
Voilà, oui, il manque une histoire globale à l'échelle du Pacifique. Quoi. Et on est en plein renouveau générationnel, renouveau thématique, l'histoire économique perse, l'histoire sociale, l'histoire des genres, bien entendu. L'histoire des cultures s'est entièrement renouvelée. Et les Indes savantes, la maison d'édition, l'une des maisons d'édition orientée vers l'histoire des Outre-mer, a publié un livre animé par Angleviel sur les Kanaks, justement. C'est déjà le deuxième volume. Donc, on a élargi, renouvelé. On a l'histoire post-coloniale, comme on dit. La SFOM n'a pas attendu les préceptes de jeunes historiens pour l'assumer, se l'approprier, comme on dit maintenant. Mais nous sommes ouverts à la critique, bien évidemment. Il y a eu en 2008 de gros débats au sein de l'ASFAM qui ont abouti, il faut le dire franchement, à une scission.
Expliquez-nous ça, pourquoi ?
Tout simplement parce que de très jeunes collègues voulaient prendre le pouvoir et aller très vite, éliminer un certain nombre de gens en place, honorables, et surtout vouloir imposer certains thèmes de façon exclusive. Donc ces thèmes, nous les avons inclus, nous sommes inclusifs, mais nous ne sommes pas sectaires, nous sommes ouverts, comparatif, je dis, pour moi, c'est le mot comparatif. Nous sommes globalisés ou connectés s'il faut être à la mode. Et simplement, il faut une évolution plurielle qui tienne compte du pluralisme des idéologies, bien sûr, du pluralisme de l'approche des questions coloniales, du pluralisme des parties prenantes venant de l'ex-métropole ou venant des ex-territoires colonisés ou venant d'autres métropoles, je me suis dit en parlant des Anglais ou des Américains, étudiant le monde français. Par conséquent, notre revue et son association est une sorte de foyer où sont brassées des réflexions. Alors, la nouvelle génération qui va prendre la relève va encore accentuer ces débats sur la philosophie de la revue et de l'association. Bien évidemment, heureusement,
il y aura un nouveau tournant.
Par exemple, Daniel Lefebvre.
Nouveaux historiens.
Oui, Daniel Lefebvre, qui a été mon prédécesseur, feu Daniel Lefebvre, mon ami Daniel, mort trop vite, qui avait relancé la revue et choisi ce nouveau nom, avait, lui aussi, il venait du marxisme, avait, donc c'est tout à fait différent de Martineau et du trésorier Nesterenko que j'évoquais, le patron de l'ASCOA, mais c'était un esprit ouvert, qui a lui ouvert la revue, d'ailleurs. Et, alors, on a une nouvelle génération, c'est pas Colette Zitniki, qui a mon âge aussi retraité, mais qui est rédactrice en chef. Mais on a Isabelle Surin, qui est professeure à Lille. On a Julie Dandurin, par exemple.
Qui sont des spécialistes de quel domaine ?
Julie Dandurin, c'est plutôt l'armée. Isabelle Surin, c'est plutôt les formes de colonisation en Afrique subsaharienne. Et puis, il y a un certain nombre de jeunes qui vont bientôt prendre le pouvoir, et tant mieux, au détriment du président Duterte, qui est lui aussi retraité. Donc c'est ça la relève. Mais être, comme vous le savez mieux que moi, être un jeune retraité permet de se dévouer à la communauté académique pendant quelques années, mais il ne faut pas s'encrouter, je dirais, il ne faut pas tenir le pouvoir, il va y avoir une relève. Heureusement, les quadras vont arriver, les quinquas, et puis ensuite les trentenaires actuels vont monter. Et sinon, hors de la revue, mais parce que bon, on a des courants différents. Mais quelqu'un comme Pierre Zingaravelou, par exemple, est l'un des héros des histoires d'outre-mer. C'est lui qui a beaucoup renouvelé l'approche de l'histoire connectée et globalisée. Il vient de publier un livre sur Tianjin, qui était une forme indirecte de colonisation par le biais de la concession française. Donc il vient de publier une histoire complète.
Il avait travaillé sur l'Inde auparavant, c'est cela?
Ah non, ça c'était son père.
Ah, je confonds les deux.
Zingaravelou, qui était professeur de géographie, qui avait travaillé sur l'Inde et les Caraïbes, et d'ailleurs les coulisses aux Caraïbes. Ben, c'est un digne fils de son père, je dirais, et vice-versa. Et donc Pierre Zingaravelou, qui est professeur à Paris, est l'une des stars. C'est le Patrick Boucheron de l'histoire des Outre-mer. Voilà. Et donc, c'est quelqu'un...
Patrick Boucheron, je ne sais pas si nos auditeurs en Nouvelle-Calédonie sauront...
Alors, Patrick Boucheron... l'idole de mon épouse, et c'est un historien qui essaye de réveiller l'intérêt pour l'histoire, pour éviter que cet intérêt pour l'histoire se cantonnât à une petite élite, façon américaine. Il essaye de renouveler cette histoire sans faire d'Alain Decaux ou André Castelot, ou du Stéphane Bern, qui sont des personnalités honorables, mais éveiller l'intérêt pour l'histoire de la part de l'histoire, pour l'histoire académique, de la part d'un moyen public, je dirais. Et il vient de sortir donc une histoire de France dans le monde. Son idée, c'est qu'il ne faut pas céder à l'histoire de ce qu'on appelle le roman de l'histoire, univalent. Il n'y a pas une seule identité française, mais au-delà du roman de l'histoire, on peut faire des histoires, d'ailleurs intéressantes, avec parfois des encarts romancés, c'est-à-dire des biographies ou l'histoire de grands événements. Et Patrick Boucheron, dans son livre collectif, ne fait pas beaucoup d'histoire comique, ça c'est pour moi que je parle, mais pas beaucoup d'histoire coloniale non plus. Mais il y aura d'autres volumes, certainement, et surtout d'autres historiens. J'ai parlé de Zingaravelou, Surin ou de Julie Dandurin et autres, qui vont renouveler cette histoire. Le but, le problème de l'histoire, je vous remercie de me faire parler sur votre radio, c'est la peur des médias de dégoûter les auditeurs. Donc l'histoire serait érudite, donc on la cantonnerait dans des émissions spécialisées. Alors, Télé Outre-mer à Almeda, une émission de mon jeune collègue aussi, Dynamite, Almeda. Dont la mère a été l'une des grandes actrices de Hélène Almeda Topor, de notre SFAM en tant que présidente notamment, mais aussi co-autrice de nombreux ouvrages et articles avec Catherine Cochry-Hidrovitch. Et ce renouvellement générationnel doit permettre de maintenir notre histoire. Rendez-vous en 3012, si je puis dire, pour le bicentenaire. Et nous y serons tous les deux pour une émission spéciale, bien évidemment.
Oui, j'en doute. hélas. Alors, justement, après tout ce que vous nous avez évoqué, c'est-à-dire finalement la diversité des thèmes, la diversité des intervenants, donc il serait bien d'expliquer dans les minutes qui nous restent, finalement, de combien de numéros, finalement, la revue de la Société d'Histoire des Outre-mer dispose et comment on peut y accéder. Comment notamment des personnes intéressées en Nouvelle-Calédonie peuvent y accéder ?
Ben, c'est relativement simple, si je puis dire, même si nous n'avons pas d'émission de télévision spécialisée, comme le font un certain nombre de revues. Mais j'ai été à l'origine de la création d'un site internet, ça a suscité quelques remous, mais on y est arrivé. Et maintenant, il y a un jeune maître de site qui l'a rénové et qui en fait quelque chose de remarquable. Donc déjà, on peut s'abonner à la lettre de la SFOM hebdomadaire en passant par ce site, www.sfom.com. Deuxièmement, les lecteurs peuvent bénéficier de l'accès à la revue de façon numérique. Il y a eu quelques réticences des collègues aussi, mais je suis arrivé à les surmonter il y a quelques années. Et notre revue est entièrement numérisée, sauf les 5 dernières années, de façon progressive, sur le site remarquable qui est Percé. Et c'est gratuit. Percé, P-E-R-S-E-E.
Oui, c'est le site des revues scientifiques.
Voilà. Enfin, il y en a d'autres, Terre, mais là, c'est le site lyonnais Percé. Nous avons choisi celui-là. Et c'est gratuit. Et le site Percé permet d'avoir toute la collection de la revue. Par ailleurs, ceux qui aiment bien le livre chez eux bien, peuvent me le commander à moi jusqu'en janvier, puis ensuite à ma successeur. La collection complète de la revue, je crois que c'est 150 euros. Et là, on leur fait envoyer. Donc, la revue est accessible aisément.
Excusez-moi, les 150 euros, c'est quoi ? Pour tous les numéros depuis 1912 ?
Voilà, pour ceux qui restent. Oui, il y en a que l'on n'a plus, il faut le dire franchement, une dizaine. Mais sinon, on a beaucoup, oui. Ils sont en stock chez notre stocker et imprimeur. Cet imprimeur date du 19e siècle, il s'appelle Payard, à Abbeville. Et il imprime la revue depuis 1913. Pas le même, c'est Frédéric Payard aujourd'hui, puis son fils. Bon, ils avaient des ancêtres aussi. Et par conséquent, nous sommes enracinés dans cette histoire, comme la revue historique d'ailleurs, sur d'autres champs, bien sûr, comme les annales. Mais nous sommes beaucoup plus vieux que les annales, bien sûr. C'est une coquinerie, bien entendu. Et revue peut être intéressante pour faire même l'histoire de la façon dont une revue pouvait percevoir l'Empire.
Oui, oui, c'est ça.
Parce que nous publions historiquement toujours beaucoup de comptes rendus.
Compte rendu de livres,
nous avons à peu près 30 pages de compte rendu de livres.
Justement, de quoi se compose un numéro, par exemple ?
Je termine sur les comptes rendus. Donc, en faisant l'étude des comptes rendus, on peut se rendre compte de l'évolution des publications, y compris dans l'entre-deux-guerres.
L'évolution historiographique.
Voilà, on fait de l'historiographie. Ben, une revue, il faut stimuler les thèmes, et on est débordé jusqu'en 2019. On a déjà
thèmes. Justement, les thèmes à venir.
Bon, je ne sais pas trop, mais on a, je l'ai dit tout à l'heure, l'héritage de la Première Guerre mondiale. Et chaque année, on reçoit des propositions de gens qui ont envie de se battre pour promouvoir leur thème de recherche de façon collective. C'est ça qui est important. Jadis, on avait peut-être des grands hommes, c'était des hommes, aujourd'hui, on a des femmes, notre rédactrice en chef est une femme, heureusement, et son adjointe aussi. Ma prédécesseure, secrétaire générale, était une femme. Mais à l'époque, c'était des hommes. Donc, ces grands hommes, entre guillemets, qui ne sont pas entrés au Panthéon, néanmoins, ces grands hommes percevaient leur revue de façon un peu, leur animation de façon un peu jupitérienne, comme on dirait aujourd'hui dans un autre secteur de politique. Et aujourd'hui,
sans analogie avec l'actualité la plus récente.
On est aujourd'hui dans le collectif, c'est-à-dire ce sont des chercheurs et des chercheuses qui réfléchissent ensemble sur un thème, par exemple le corps en situation coloniale, c'était ça. Et elles nous ont apporté ce thème, et c'est passionnant de voir ces recherches qui prennent corps, là, c'est le cas de le dire, et qui sont novatrices. Ce sont de nouvelles approches latérales, je dirais, mais qui, du latéral, accèdent au central. Et ça, c'est le but de l'esprit d'ouverture. Ce n'est pas une revue figée. Les autres revues ne sont pas figées non plus. Mais la SFOM aurait pu, l'Outre-mer aurait pu courir le risque de se statifier, je dirais, ou de se momifier. Ce n'est pas le cas. Elle a été réveillée sans avoir besoin de révolution, par des débats internes, sereins. Et c'est ce qu'elle fait, ce qu'elle va faire encore. Heureusement, la nouvelle génération va débattre. Alors, bien sûr, je sens votre plainte que vous n'exprimez pas. Il faut plus d'articles sur l'ère du Pacifique.
Et oui, c'est ce que je vais sur la Nouvelle-Calédonie. Parce que le Pacifique semble un peu le parent pauvre au sein des...
C'est un appel, nous avons sorti le numéro Images et Pacifique, hein, dans de l'outre-mer dans le Pacifique. Et donc, ils peuvent se procurer, vos auditeurs peuvent se procurer. Et par conséquent, nous avons publié beaucoup d'articles sur la Nouvelle-Calédonie. Et par conséquent, il faut maintenant essayer de faire appel à des auteurs aussi.
Océaniens,
c'est
au
à
sens
eux de se remuer.
De Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie.
On a publié des actes d'un colloque organisé par Jean-Marc Rognon, jadis, sur les accords concernant.
Voilà. Les accords politiques.
Les accords de Nouméa, comme on dit. On l'a publié même en anglais, donc en français et en anglais. Il nous faut des abonnés. En Nouvelle-Calédonie.
Voilà, donc si vous êtes intéressés, chers auditeurs, par cette revue qui permet d'avoir un regard extrêmement large sur l'histoire des Outre-mer, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à cette revue. Merci infiniment.
Merci, madame.
Au revoir.
Au revoir de l'autre côté du monde.